Bienvenue dans le podcast Nouvelle Conscience. Nous discuterons ensemble de projets, d'œuvres et d'acteurs vecteurs d'espoir pour l'édification d'un monde plus respectueux du vivant et de soi-même. Je suis Manon Sala et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien intrinsèque entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Je vous invite à me joindre dans ce jeu de pistes afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Christine Mention au micro de Nouvelle Conscience. Nous discuterons ensemble de comment trouver sa place au travail dans un système qui n'est pas toujours adapté au type de profil, à la créativité, aux envies, à l'énergie des travailleurs, des employés, des salariés. Christine nous donne quelques pistes pour mieux comprendre quels sont nos besoins, à la fois dans la vie privée, dans la vie publique, dans le domaine du travail, dans le domaine familial, parce que finalement, les deux sont liés. Christine nous invite à replonger à l'intérieur de nos sensations, de nos émotions, de nos parts, de nos différentes parts, de nos enfants intérieurs, pour comprendre quelle place nous souhaitons occuper dans le monde professionnel. Je suis ravie de vous livrer cet échange. Très bonne écoute. Christine Mention a travaillé pendant 22 ans en entreprise auprès de compagnies de la grande distribution. En 2012, elle quitte son poste d'ingénieur commercial et devient coach certifié et conseillère en entreprise. Formée à la communication non violente, à l'analyse transactionnelle, à la programmation neurolinguistique ainsi qu'à l'IFS, Christine Mention propose un accompagnement personnalisé et nous pousse à mettre qui on est dans ce que l'on fait. Donc Christine, la première question que je souhaite vous poser est la suivante. Comment passe-t-on du métier de l'enseignement, donc de l'anglais en l'occurrence, à celui d'ingénieur commercial, puis au métier de coach?
Alors, l'enseignement au départ était très conjoncturel. En fait, j'ai été enseignante parce que j'habitais en Arabie Saoudite, où mon mari faisait son service militaire en coopération, et en Arabie, on ne peut travailler que dans la santé ou dans l'enseignement. La santé, ça n'était pas possible. Donc, j'ai été enseignante à l'école française de Riyad. Voilà. Ensuite, ingénieure commerciale, puis directrice commerciale. C'est vrai que ma formation ne m'a pas du tout préparée à ça. C'est plutôt une fibre commerciale que j'avais, que j'ai toujours d'ailleurs, avec ce goût du défi, du challenge, qui m'a beaucoup plu et qui aussi, du coup, fait un pont avec le métier que j'ai fait après, puisque pour être un bon commercial, eh bien, il faut avoir aussi une bonne communication, savoir bien écouter les besoins de ses clients. Et donc, je retrouve ça aussi dans mon métier de coach et de psychothérapeute, puisque je suis également psychothérapeute en cabinet privé. Voilà.
D'accord, merci. Et selon vous, du coup, l'accompagnement que vous proposez dans votre cabinet privé, est-ce qu'il pourrait s'assimiler à l'accompagnement que vous proposez en entreprise?
Alors, c'est un peu différent, parce qu'en psychothérapie, on va plutôt répondre à la question « pourquoi ?» même si on va vers le comment, alors que le coaching en entreprise, c'est plutôt comment. Je m'explique. En thérapie, dans mon cabinet privé, on va essayer de remonter aux origines des comportements qu'on peut avoir. Et après, effectivement, on va trouver des solutions pour faire autrement. Dans le coaching en entreprise, on ne remonte pas aux racines. On va plutôt directement vers le comment. Même si moi, dans ma manière d'accompagner en entreprise, bien évidemment, je vais toujours chercher la bonne raison qui a fait qu'au départ, on s'est mis à se comporter comme on se comporte.
D'accord.
Pour non pas faire du curatif, mais vraiment faire une évolution de comportement. Donc, ne pas être dans « bon, bah ok, je dois changer, donc je fais ci, ça », mais plutôt dans « qu'est-ce qui m'a amené à me comporter comme ça à un moment donné ?» parce qu'il y a toujours une bonne raison, et aller écouter cette bonne raison pour pouvoir après peut-être faire autrement.
Donc les comportements qu'on peut avoir en entreprise, finalement, ce sont ceux qu'on a également dans notre vie privée?
Oui, parce qu'on n'est pas vraiment différent, c'est toujours la même personne qui est dans sa vie privée ou dans sa vie professionnelle. En tout cas, dans l'entreprise, il y a aussi des situations où on est face à soi-même et face à nos émotions, où on est stimulé par certaines personnes ou par certains comportements ou par certaines situations. Et où donc on réagit en fonction de qui on est.
D'accord. Vous parlez dans votre profil LinkedIn que votre accompagnement vise notamment à mettre qui on est dans ce que l'on fait. Et la question que je me pose à propos de cela, c'est est-ce que les entreprises sont des lieux, des environnements professionnels qui facilitent cet accomplissement ?
Alors, qui facilitent pas forcément, mais qui prennent de plus en plus en compte cette notion de savoir-être. Oui, aujourd'hui, on ne demande plus seulement aux salariés, aux collaborateurs d'avoir des bonnes compétences techniques, mais aussi d'avoir des bonnes compétences émotionnelles. Et donc, de faire avec qui ils sont. Et pour faire avec qui on est, il faut déjà bien se connaître. Hein, Socrate l'a dit, connais-toi toi-même. Donc, important de bien se connaître pour pouvoir être en relation avec les autres de manière la plus harmonieuse possible, y compris en entreprise. Mais il est bien évident que l'entreprise n'est pas le lieu de développement personnel. En revanche, le développement personnel qu'on peut faire sur soi en dehors de l'entreprise va aider dans l'entreprise. Ça, c'est une évidence.
D'accord. Et vous, quand vous allez dans les entreprises, comment vous vous positionnez alors quelle casquette prenez-vous? Est-ce que vous pouvez vous présenter en tant que psychothérapeute ou vous veillez bien à garder cette casquette de conseillère en entreprise afin de ne pas mélanger justement, même s'ils sont liés, de ne pas trop les mélanger?
Alors, je me présente plutôt volontiers comme accompagnante, ce qui laisse un flou. Mais comme je le disais tout à l'heure, j'utilise à la fois mes compétences de coach et de thérapeute dans mes accompagnements, qui sont probablement différents de coach plus classique. Et je me présente comme spécialisée en intelligence émotionnelle, puisque c'est le cas, et pour aider donc les différentes personnes à avoir une meilleure intelligence émotionnelle.
D'accord. Et on parle beaucoup de burn-out et la thématique du stress au travail est de plus en plus mise en lumière dans différents domaines. Comment expliquer, selon vous, cette augmentation de cette angoisse au travail et de cette pathologie?
Alors, je pense qu'il y a deux phénomènes. D'abord, on en parle plus qu'avant. On a mis des mots là-dessus. Le burn-out a toujours existé, mais on n'en parlait pas. Aujourd'hui, c'est plus un sujet tabou, on en parle. On parle de termes comme risques psychosociaux, ceux dont on ne parlait pas avant et pourtant ils étaient là. C'est une réalité. On demande de plus en plus de choses aux gens. Donc, les gens sont de plus en plus sous pression, ce qui occasionne du stress, et le stress occasionne du burn-out ou de la dépression, ou en tout cas des réactions du corps, forcément. D'où l'importance de bien se connaître, de bien gérer ses émotions et de savoir se préserver aussi pour éviter d'en arriver à des burn-out ou des dépressions.
D'accord. Donc finalement, ce n'est pas une nouvelle résurgence du burn-out, c'est-à-dire on le pointe enfin du doigt en fait.
Je pense qu'il y a les deux. C'est à la fois quelque chose dont on commence à parler, dont on ne parlait pas avant, donc qui existait avant, et aussi je pense qu'il y en a plus qu'avant, parce qu'aujourd'hui on demande plus aux gens qu'on ne pouvait demander avant.
D'accord.
Voilà. Il y a plus d'exigences, plus de pression, je pense sincèrement. Oui.
Et comment expliquer cette augmentation de la pression qu'on met sur les employés, les salariés?
Bien ça, il faut le demander aux chefs d'entreprise. Pourquoi ils ont des exigences de plus en plus importantes? Certainement pour des questions de rentabilité. Je pense que le vrai sujet de fond, c'est ça. C'est comment gagner plus en payant le moins possible les gens pour faire ce travail.
D'accord. Ça me fait penser à ce dont on parlait avant, hors antenne, donc quand on parlait d'écologie intérieure.
Absolument.
Puisque finalement, ce système de production est mauvais pour l'environnement, l'écologie, et finalement même pour nous, notre développement personnel.
Oui, tout à fait. Ce qui est important, c'est effectivement d'avoir une bonne écologie personnelle. Et quand on arrive en entreprise avec sa bonne écologie personnelle, eh bien, on est plus ouvert, plus disponible, moins réceptif au stress et on est plus productif aussi.
Oui.
Donc, on a tout intérêt, que ce soit en tant que salarié ou en tant que dirigeant d'entreprise, d'inciter les gens à vraiment avoir cette écologie personnelle. D'ailleurs, certains pays le font déjà, où les horaires de travail sont plus aménagés, dans les pays du Nord notamment, où les gens ont du temps pour faire du sport, pour prendre soin d'eux, etc.
Et est-ce que vous pensez que ce temps-là doit être pris au sein de l'entreprise? Par exemple, Google propose d'avoir tous ces services-là au sein de l'entreprise Google. Ou est-ce que vous pensez que c'est mieux de le cultiver à l'extérieur, dans son écosystème personnel, en dehors des horaires et du lieu de travail?
Je n'ai pas vraiment d'avis sur la question parce que les deux solutions sont intéressantes. Le faire sur son lieu de travail, ben, ça permet de gagner du temps et de ne pas perdre du temps en aller et venu. En même temps, ça ne sort pas la personne de son lieu de travail, donc elle ne déconnecte pas. Donc en ça, je ne trouve pas que ce soit forcément une bonne idée. En plus, ça peut être aussi une manière de stigmatiser la personne qui ne va pas faire ce genre de choses dans l'entreprise, mais choisit de le faire à l'extérieur.
D'accord.
Donc, à voir en fonction de ce qui est proposé, comment c'est proposé, pourquoi c'est proposé.
Ok. D'accord, donc c'est pas tout blanc, tout noir, ça dépend vraiment des besoins de chacun.
Il y a peu de choses qui sont toutes blanches ou toutes noires. Hein. Je pense que voilà, et après c'est vraiment du cas par cas. Et puis, certaines personnes se reconnaîtront plus et se retrouveront plus à faire ces choses-là dans le milieu professionnel avec des gens du travail, et d'autres pas du tout, qui supporteront pas d'avoir, de faire du sport ou de faire des déconnexions au milieu des collaborateurs de
oui.
tous les jours.
D'accord.
C'est vraiment des décisions individuelles pour moi.
D'accord. J'imagine que vous avez entendu parler du métier de Chief Happiness Officer.
J'en ai entendu parler, oui.
Est-ce que ça vous parle par rapport à votre, voilà, votre profession? Qu'est-ce que vous en pensez?
Je n'en ai pas rencontré personnellement, donc je ne sais pas vraiment ce que ce job recouvre précisément. Si je comprends bien ce que dit le titre, c'est la mission de cette personne, c'est de rendre les gens heureux. Mais comment est-ce qu'elle s'y prend pour rendre les gens heureux? Sachant que le bonheur vient de l'intérieur et pas de l'extérieur. Et ça, c'est important de ne pas oublier ça. Que chacun est responsable de son propre bonheur. Alors, il peut y avoir des situations facilitantes, c'est sûr. Bien sûr. Mais voilà, je serais assez curieuse de savoir en fait ce que font concrètement ces personnes dans le cadre de leur travail. Si tu le sais, je suis preneur pour que tu me le dises.
Non, je m'étais un petit peu renseignée et en fait c'est assez... c'est créer une personne qui est censée vous créer des jeux d'équipe, du management positif, organiser des activités,
c'est ça.
Créer du lien entre les collègues.
Créer du lien, d'accord.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est une bonne idée de créer du lien, si ce n'est pas artificiel.
Oui.
Après, oui. Comment on crée du lien, c'est une question importante aussi.
Oui.
Bien sûr.
Mais au nom de quoi et selon quels critères?
Oui, c'est ça. Et puis, on ne peut pas non plus obliger les gens à être en lien s'ils n'ont pas envie d'être en lien. Surtout si c'est fait de manière artificielle.
Oui, d'accord. Et est-ce que dans l'accompagnement que vous proposez, vous avez pu voir un changement ces 30 dernières années par rapport à la notion de sens que l'on donne dans le travail qu'on fait? Est-ce que vous pensez que en général, les salariés, les employés ou les gens en général se questionnent davantage sur le sens qu'ils veulent donner à leur travail?
Ce qui est sûr, c'est que depuis 30 ans, avant, la norme, c'était, c'était la linéarité. Maintenant, la norme, c'est le changement. Donc, on a plusieurs vies en une seule vie. On déménage plusieurs fois, on change de travail plusieurs fois, on divorce et on se remarie, on a des familles recomposées. Donc, on a le changement fait partie de la vie. Et avant, le sens qu'on pouvait donner à sa vie, c'était quelque chose qui était très, très linéaire. Maintenant, je pense que les gens sont plus sensibilisés, effectivement, sur quel sens j'ai envie de donner à ma vie. Et on peut changer d'avis dans sa vie. Avant, c'était difficile parce que tout était linéaire. On restait dans la même entreprise, dans la même maison, on avait la même voiture, le même mari, la même femme. Maintenant, on peut complètement changer tout ça. Oui. Moi, j'ai changé complètement au niveau professionnel puisque j'étais ingénieure commerciale et directrice commerciale et je suis devenue coach et psychothérapeute. Donc, j'ai complètement changé de métier parce que j'ai écouté différentes voix en moi. La première était très commerciale, donc dans ma première partie de carrière. La deuxième, c'était une autre partie de moi qui aime aider, qui aime écouter, qui aime accompagner, et c'est elle que j'ai suivie et qui m'a fait changer de métier. Mmh. C'est ça qui a donné du sens à cette deuxième partie de vie, oui, absolument.
Mmh. D'accord. Et vous parliez de voix à l'intérieur de soi. Mmh. Est-ce que ça fait référence aux parts également que vous proposez dans
Absolument.
Vos accompagnements?
C'est ça. Donc, on est constitué de parties à l'intérieur de soi. Moi, j'ai une partie très commerciale qui aime le challenge, qui aime vendre, qui aime négocier. Et puis, j'ai une autre partie de moi qui aime écouter, soutenir, aider. Et les premières années de ma carrière, j'ai écouté la première partie. Et puis là, maintenant, depuis une dizaine d'années, j'ai plus écouté la deuxième. Voilà. Oui. Ce qui n'empêche que je me sers aussi de la première parce que, quand on est chef d'entreprise, il faut des clients. Et j'ai cette activité en entreprise, je me sers aussi de ma partie commerciale pour aller négocier des contrats avec les entreprises.
D'accord.
Donc tout ça fonctionne en bonne intelligence et en bonne synergie. Voilà.
Et si vous auriez un ou plusieurs conseils à donner pour écouter ces parts de nous-mêmes, qu'est-ce que vous proposeriez ?
Déjà, de faire silence. Parce qu'on ne peut pas écouter quelque chose si on n'est pas dans le silence. Et surtout, de ne pas se juger. Plus on se juge, moins on se comprend. Moins on s'entend et donc plus on subit.
D'accord.
Voilà. S'écouter avec bienveillance, avec ouverture, avec curiosité, avec compassion, avec amour. Voilà. On en revient toujours là, à l'amour.
Oui, c'est vrai. Et c'est naturel cette faculté-là ? Tout le monde l'a ?
Tout le monde l'a. Mais c'est comme le ciel bleu, il est toujours là, mais parfois il y a des nuages. Et c'est pas parce qu'il y a des nuages que le ciel bleu, il a disparu. Non, il est derrière les nuages. Donc quand on arrive à faire se mettre de côté les nuages, on a de nouveau accès au ciel bleu. On a de nouveau accès à cet espace d'amour, de compassion, d'ouverture, de bienveillance.
Ah, c'est beau.
Oui, c'est beau la vie. C'est beau l'amour.
Mais c'est vrai, ça, je dis souvent que ce genre de compréhension de soi, on ne l'apprend pas dans le système éducatif qu'on propose. Et...
C'est vrai. Alors ça, je suis entièrement d'accord. Et c'est bien dommage. Mmh. C'est bien dommage. Parce que si, dès les premières années, on avait de l'éducation émotionnelle, ça nous aiderait grandement.
Mmh. Oui. Parce qu'on en a tous et toutes besoin, finalement.
Absolument. Absolument.
Oui, c'est vrai. Oui. D'accord. Merci Christine.
Avec grand plaisir Manon.
Ça m'a beaucoup parlé et ça me fait aussi penser au nom du podcast qui s'appelle Nouvelle Conscience.
Oui.
Et je voudrais savoir comment ça résonne en vous quand je vous dis Nouvelle Conscience, qu'est-ce que ça signifie pour vous ?
Qu'est-ce que ça signifie pour moi Nouvelle Conscience ? Ben déjà, dans nouvelle conscience, il y a conscience et il y a nouveau. Donc, nouveau, ça veut dire un regard différent qu'on porte sur soi-même. Et un regard différent, c'est forcément aller vers une meilleure connaissance de soi et plus de liberté d'être aussi. Mmh. Donc, c'est super. Moi, je trouve ça très bien, nouvelle conscience.
Ah oui, ça vous plaît le titre.
Ça me plaît bien, ouais.
Et vous, comment vous l'avez développé, cette écologie intérieure, cette conscience de vos parts différentes ?
Eh bien, en travaillant sur moi, donc déjà en me formant, et puis en faisant un travail thérapeutique et psychologique sur moi depuis des années, même avant que je sois formée, je travaillais déjà sur moi. C'est le chemin de toute une vie.
Oui.
Je pense qu'on n'arrête pas de découvrir de nouvelles choses sur soi. Oui. Et c'est une belle aventure.
Oui.
Que l'aventure intérieure. Ouais, c'est une très belle aventure. Oui.
C'est vrai. Et toutes les parts sont compatibles, les parts de nous-mêmes ou...
Oui, alors parfois, ce sont des parts qui ne s'entendent pas forcément très bien, qui peuvent parfois être polarisées, donc être opposées les unes aux autres. Mais l'idée, justement, avec l'accompagnement que je propose, c'est de recréer un dialogue à l'intérieur de soi pour apaiser ce qui a besoin de l'être et aller vers une libération intérieure qui permettra de faire des choix non plus par peur, mais par réelle envie.
Oui, d'accord. Et vous proposez des accompagnements à distance également ?
Oui, tout à fait.
Oui,
oui. Oui. Et ça depuis le départ, donc c'est pas suite au confinement. J'ai toujours fonctionné comme ça, puisqu'avant j'étais en région parisienne, et quand je suis venue sur Carcassonne, je ne connaissais personne. Donc, j'ai gardé les clients que je pouvais avoir en région parisienne. Donc, je travaille à distance très facilement. Oui. Et ça se passe très bien.
Oui, le dialogue est là, la connexion.
Absolument.
D'accord.
Tout à fait.
Très bien. Ok. Bon, bah, merci beaucoup.
Merci à toi de m'avoir convié.
Avec plaisir. Merci pour votre écoute. Je vous retrouve la semaine prochaine pour construire ensemble cette nouvelle conscience. En attendant, n'hésitez pas à partager, aimer, diffuser autour de vous ce podcast. À très bientôt !